Alors, nous en sommes à notre troisième partie de notre série sur le livre de Daniel. Je vous invite à tourner dans le livre de Daniel. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 2, qui est un des chapitres charnières de la Bible, parce qu'il révèle une vérité importante sur l'histoire du monde à partir du point de vue de Dieu. Vous n'apprendrez rien de ce que les universités enseignent, mais l'enseignement que nous trouvons dans ce chapitre est digne de confiance. Un auteur a appelé le chapitre 2 de Daniel l'alphabet prophétique, parce que vous y trouvez l'ABC de la prophétie biblique. Et beaucoup de gens se demandent si nous vivons dans les derniers jours, au point où plus de 5 à suite d'un sondage, au point où plus de 50 % de chrétiens aux États-Unis croient qu'à notre époque, que le Seigneur Jésus reviendra, alors que nous serons toujours vivants. Et moi, je trouve que ce regain de popularité pour la prophétie, ou ce regain d'intérêt pour la prophétie biblique est une bonne chose, s'il ramène les gens dans la parole de Dieu et les éloigne de spéculer inutilement. Et dans une époque comme la nôtre, face à tout ce qui se passe autour de nous, il est important de savoir pour nous, en tout cas, il est important de savoir ce que Dieu dit à propos du futur. En gardant cela à l'esprit, je ne peux m'empêcher de penser que le meilleur endroit pour commencer, c'est dans le chapitre 2 de Daniel, qui dresse en fait un tableau qui commence 600 ans avant Jésus-Christ, pour s'étendre ensuite sur tous les siècles et continuer vers un futur que nous ne connaissons pas jusqu'au moment où le Seigneur Jésus reviendra pour établir son royaume sur la terre. Et pour rendre la chose encore plus intéressante, cette révélation a été donnée en rêve, non pas un prophète, mais un roi païen. Vous pouvez appeler le chapitre 2 de Daniel. Moi, si j'avais eu un titre à mettre, je mettrais finalement un rêve qui dévoile des destinées, car il révèle la montée et la chute de quatre grands empires qui dirigeront le monde. Je vous invite à prier. Prions. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce ce matin, non seulement parce que tu nous as donné ta parole, pour que nous puissions, Seigneur, connaître ton salut, connaître, Seigneur, celui qui personnifie ta grâce, la personne de Jésus-Christ. Mais nous voulons te rendre grâce aussi, parce que dans le livre de Daniel, Seigneur, tu nous révèles des secrets. Tu nous révèles des secrets, Seigneur, qui nous parlent, Seigneur, de la fin des temps, qui nous parlent, Seigneur, du retour de Jésus-Christ. Et Seigneur, notre espérance vivante, c'est non seulement que nous allons passer l'éternité avec toi et que tu ramèneras notre corps à la vie un jour, mais aussi, Seigneur, c'est de faire partie de cette génération qui verra, Seigneur, le Seigneur Jésus arriver. Que tu puisses bénir ta parole ce matin, que tu puisses, Seigneur, faire en sorte que ton serviteur s'efface et que ton Saint-Esprit occupe toute la place qui lui revienne pour enseigner, Seigneur, ce qu'il a à dire à son Église. Nous te le demandons, et tout cela pour la gloire de ton nom. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alors, je vais essayer de... On ne lira pas tous les chapitres, tous les versets. Il y a plus de... moi, dans la mienne, ça dépend de quelle version vous avez. Moi, j'ai 49 versets. On ne les lira pas tous. On va essayer de les lire en diagonale. Alors, on va les voir tous, mais assez rapidement. D'abord, au verset 1. Quand on regarde le verset 1, l'histoire commence une nuit à Babylone. Le texte biblique nous dit que le roi Nabucodonosor a du mal à dormir. Il est écrit dans la deuxième année de son règne qu'il a fait un rêve et qu'il en fut si troublé qu'il en perdit le sommeil. Et cela ne devrait pas nous surprendre parce qu'il arrive très souvent que le commun des mortels dort comme un bébé, tandis que l'homme qui occupe un poste élevé a souvent de la difficulté à trouver le repos. Nous savons que la pression augmente à mesure que nous grimpons dans la structure hiérarchique ou dans la société. Et trop souvent, ceux qui sont tout en haut de l'échelle ne peuvent pas dormir. Alors, pour tenter de résoudre les problèmes, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils écrivent des mémos, surtout à notre époque, ils écrivent des mémos, ils licencient les travailleurs tout en se demandant comment ils peuvent vaincre aussi la concurrence et le reste. Occuper une fonction élevée n'est pas une garantie de paix, n'est-ce pas? Et l'argent, le pouvoir et les éloges ne peuvent pas calmer un cœur troublé. Et ici, malgré le fait que le roi de Babylone était l'homme le plus puissant du monde, cette nuit-là, il avait eu beaucoup de difficultés à s'endormir, nous dit le texte. Les versets 2 à 7, il va alors appeler ses sorciers, ses enchanteurs, ses magiciens, ses astrologues, en leur ordonnant non seulement de lui raconter le rêve qu'il avait fait, mais de lui en donner la signification. Ils vont alors lui demander de lui communiquer son rêve pour qu'il puisse leur en donner justement leur dire exactement ce que veut dire ce rêve. Et à cet égard, nous pouvons dire qu'il ressemblait, tous ces soi-disant conseillers, c'est-à-dire tous ces charlatans, eh bien, ressemble à ces médiums que vous pouvez appeler à partir du numéro 1-900 aujourd'hui, qui vous pose quelques questions, vous soutire quelques détails pour ensuite vous raconter une histoire ambiguë qui peut vouloir dire plusieurs choses différentes. Et dans les versets 8 à 13, constatant qu'ils essaient, que le roi constatant que ses conseillers essayent de gagner du temps, il va leur ordonner de lui raconter son rêve et de lui en révéler la signification. Alors, ils vont lui répondre, eh bien, ils vont lui demander qu'il lui raconte son rêve, mais il s'en souvient pas. Alors, non seulement il leur demande de raconter son rêve, et non seulement il leur demande de lui fournir des explications, mais il est incapable de leur dire le rêve. Alors, ils vont lui répondre qu'aucun homme au monde ne pouvait faire ce qu'il exigeait, que c'était tout simplement impossible et que seuls les dieux qui n'habitent pas dans le monde des hommes pouvaient donner la réponse. Alors le roi, le texte nous dit que le roi va entrer dans une violente colère et il va ordonner de tuer tous les sages de Babylone. Et il va faire publier la sentence et les sages allaient être mis à mort. Alors on est allé chercher aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter puisqu'ils faisaient partie des sages. Les versets 14 à 19. Lorsque Daniel apprend la nouvelle, il va demander au chef des gardes l'autorisation de pouvoir rencontrer le roi pour qu'il lui accorde un délai afin qu'il puisse lui communiquer, la signification de son rêve. De retour chez lui, Daniel rencontre ses trois compagnons et il va les inviter à implorer la bienveillance de Dieu pour qu'il leur réveille ce mystérieux rêve. Alors le secret, nous dit le texte, fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. La deuxième partie du verset 19 jusqu'à 23, il est écrit « Alors Daniel se mit à louer le Dieu du ciel en ces termes. » Et là, on est en présence d'un homme qui va louer le Seigneur, qui va rendre grâce au Seigneur, et on a un enseignement à aller chercher aussi dans la prière de Daniel. Il s'est pas placé devant le Seigneur simplement pour prendre plaisir à louer le Seigneur, mais on est en présence d'un homme qui connaît son Dieu. Il a prié, Dieu a répondu à sa prière. La première réaction de Daniel, c'est de rendre gloire à Dieu. Et regardez ce qu'il dit. « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. » Sa louange, elle commence d'abord pour Dieu. À lui appartiennent la sagesse et la force. Il continue dans sa louange, c'est pour Dieu. Il est le maître du temps et de l'histoire, il renverse les rois et les établit. Encore une fois, tout est vers Dieu. C'est lui qui accorde la sagesse aux sages, qui donne le discernement aux intelligents. Il révèle ce qui est profond et caché. Il sait ce qui se cache dans les ténèbres, car la lumière brille à ses côtés. Daniel est en train de glorifier le beau nom de Dieu. Il est en train de louer le Seigneur. Tout est tourné vers le Seigneur. Ce n'est pas une prière d'action de grâce, c'est une prière de louange. La louange, elle revient à Dieu. Continue, Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as rempli. Voilà. Ce que tu m'as rempli de sagesse et de force. Il aurait pu dire de ce que tu m'as rempli dans ta grâce, de ta sagesse et de ta force. Et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Dans notre louange, dans cette prière de louange, il y a une chose qui se dégage de cette prière de Daniel. Non seulement il glorifie Dieu, non seulement la louange revient à Dieu, mais il reconnaît que ce qu'il reçoit, il est animé d'un esprit d'humilité. Il reconnaît finalement que c'est une grâce que Dieu lui a accordée de pouvoir lui révéler ce secret. Les versets 24 à 26, Daniel va demander à rencontrer le roi et le supplie de ne pas faire périr les sages de Babylone. Le roi lui demanda alors s'il pouvait interpréter le rêve qu'il avait eu et lui en donner une explication. Et cette première partie du chapitre 2, frères et sœurs, révèle plusieurs vérités importantes. Premièrement, elle révèle les limites du pouvoir de l'homme. Bien que Nabuchodonosor soit l'homme le plus puissant de la planète, il était incapable de comprendre son propre rêve. L'argent, le pouvoir et les succès matériels peuvent apporter beaucoup de choses à un homme, mais toutes ces choses ne servent absolument rien dans le domaine spirituel. Deuxièmement, la deuxième vérité qu'elle nous révèle, cette première partie, c'est les limites de la sagesse humaine. À travers ce qu'ils viennent de vivre, les enchanteurs sont ridiculisés et discrédités une fois pour toutes. 1000 ans de religion païenne ne pouvaient pas révéler ce que le roi voulait savoir. Les historiens nous disent que les Babyloniens ont écrit des livres sur la manière d'interpréter les rêves, mais qu'ils étaient tout à fait incapables de récupérer le rêve lui-même. Et cette situation expose la futilité du monde dans les choses qui comptent le plus. Nous sommes dans un monde qui est complètement perdu, qui est à la recherche de la vérité, qui veut connaître l'avenir. Et je peux vous dire une chose, les diseuses de bonnes aventures, elles font de l'argent. Les diseurs de bonnes aventures, ils se remplissent les poches parce que les gens sont désespérés. Ils cherchent à connaître ce qui va leur arriver dans la semaine qui va venir. Est-ce que je vais avoir mon travail? Est-ce que je vais te rencontrer l'homme de ma vie? Est-ce que je vais rencontrer la femme de ma vie? Est-ce que je vais avoir un enfant d'ici un an, et ainsi de suite? Et pourtant, frères et sœurs, Dieu nous a révélé tout concernant l'avenir. Tout. Alors, plutôt que d'aller voir des diseurs de bonne aventure et que nos gens dépensent de l'argent, pourquoi pas aller leur renseigner, leur partager l'Évangile qui ne coûte rien, qui est gratuit, et leur parler du salut qu'ils peuvent trouver en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes amen à ça ce matin? Oh, Seigneur, mes amis. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça ce matin?
Amen.
Bon, ah, voilà, voilà. Troisième vérité, cette première partie nous révèle la fin du cœur de l'être humain. Nous voyons cette fin dans la tentative désespérée du roi de comprendre son propre rêve. D'une certaine manière, il savait que ce rêve avait été envoyé par Dieu comme étant une révélation des choses à venir, et sa colère contre les enchanteurs va révéler son vide intérieur. Frères et sœurs, cela ne correspond-il pas au vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque être humain? Verset 27-28. Lorsque nous lisons les versets 27 à 28, ils pourraient être utilisés comme terme pour tout le chapitre 2. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Aucun homme sage, enchanteur, magicien ou devin ne peut expliquer au roi le mystère qu'il a demandé. » Et que c'est beau ce qu'il dit après, « Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. » Frères et sœurs, parce que Dieu a voulu nous révéler le mystère qui se trouvait en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous avons cette espérance vivante, non seulement que nos péchés sont pardonnés, non seulement qu'un jour Dieu nous ramènera de la mort à la vie comme il l'a fait pour Jésus-Christ, mais que nous allons régner avec lui pour l'éternité. Est-ce que ça ne mérite pas un autre amen, ça?
Amen.
Merci. Dieu va alors révéler, les versets 28 à 35, Dieu va alors révéler à Daniel le rêve du roi. Daniel dit, « Eh bien, voici la vision que tu as eue durant ton sommeil, ô mon roi. » Verset 29-31, « Lorsque tu t'es couché, tu t'es mis à penser à l'avenir. Alors celui qui réveille les secrets t'a montré ce qui arrivera. » Le roi, il dirige tout le monde, il dirige le monde. C'est un empire, c'est un empire, Babylone, à ce moment-là. Et regardez, il n'est même pas encore tranquille. Daniel dit, « Lorsque tu t'es couché, tu t'es mis à penser à l'avenir. » Tu t'es mis à penser à l'avenir. Eh bien, Dieu t'a révélé quelque chose d'important pour l'avenir. « Pour ma part, ce secret m'a été révélé, non pas parce que je serai plus sage que n'importe qui d'autre. » Quelle humilité, n'est-ce pas? Quelle humilité! « Mais pour que quelqu'un puisse te communiquer la signification de ton rêve et te faire connaître ce qui inquiète ton esprit. » Les versets 31 à 33, « Voici donc ce que tu as vu. Devant toi se dressait une grande, très grande statue d'une splendeur éblouissante et d'un aspect terrifiant. La tête de la statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer et ses pieds moitié en fer et moitié en argile. Le rêve est à la fois simple et étrange. Le roi vit une énorme statue faite de 4 métaux différents, tête en or, poitrine en argent, ventre et cuisses en bronze, pieds en fer, pieds et orteils en fer mélangés avec de l'argile. La statue, elle ne bouge pas, elle ne fait rien. Elle ne bouge pas, elle ne parle pas. En fait, la particularité de la statue réside dans les différents métaux qui la composent. Qu'est-ce que tout cela pouvait bien signifier? Les versets 34 et 35, Daniel continue en disant, « Tu as contemplé cette statue jusqu'au moment où une pierre s'est détachée. » Cette pierre, elle fait référence à la personne de Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. On va le voir un peu plus loin dans d'autres chapitres. « Tu as contemplé cette statue jusqu'au moment où une pierre s'est détachée de la montagne, sans intervention humaine. » Elle est venue frapper les pieds en fer et en argile de la statue et les a fracassés. Alors d'un seul coup, le fer et l'argile, ainsi que le bronze, l'argent et l'or, furent réduits en poussière que le vent emporta comme des brins de paille lorsqu'on vanne les céréales en été. Aucune trace n'en subsista. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint une grande montagne remplissant toute la terre. Assez bizarre comme rêve, n'est-ce pas? Pas étonnant que le roi se sentait très mal à l'aise. Pas étonnant qu'il voulait en connaître la signification. Remarquez deux choses concernant les métaux ici qui composent la statue. Il y a une détérioration progressive de la valeur de ces métaux de haut en bas. De l'or, de l'argent, du bronze et du fer. D'un autre côté, la force augmente progressivement. Cependant, quand vous regardez le texte, la statue est nettement plus faible en bas qu'en haut, car le fer est mélangé à l'argile, une combinaison qui est de façon naturelle, qui est instable. Et les versets 36 à 40, Daniel va expliquer le rêve. Daniel s'apprête maintenant à expliquer au roi la signification de son rêve. « Tu es le plus grand de tous les rois. Le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et l'honneur. Nabucodonosor t'a rien gagné. Si tu es sur le trône aujourd'hui, ce n'est pas par tes propres forces, c'est que Dieu t'a décidé de t'y placer. » Si on regarde nos politiciens partout à travers le monde, il y a des visages qu'on n'aime pas. Il y en a aussi qui font pas tout rien, qui font rien pour se faire aimer. Vous devez avoir la certitude, si vous croyez dans la souveraineté de Dieu, que ces gens-là sont là parce que c'est Dieu qui les a placés. C'est plus dur à encaisser, ça, hein? Mais c'est vrai, hein? C'est vrai. On dit qu'on a les gouvernements qu'on mérite, mais Dieu travaille dans l'ombre pour que son plan puisse s'accomplir dans l'avenir. Daniel continue, il a placé sous ton autorité les êtres humains, les animaux et les oiseaux. Tu en es le maître, partout où ils demeurent. Eh bien, la tête en or, roi, c'est toi. Mais qu'en est-il pour les trois autres métaux? Daniel continue, un autre royaume moins puissant que le tien s'élèvera vers près toi. Ensuite, un troisième royaume, représenté par le bronze, règnera sur toute la terre. Enfin, un quatrième royaume, dur comme le fer, lui succédera. Comme le fer écrase, pulvérise et broie tout, ce royaume écrasera et broiera tous les royaumes précédents. Et la signification de tout ceci, c'est que la statue représente symboliquement quatre royaumes mondiaux qui vont se succéder. Seul le premier royaume est identifié dans le texte. C'est le royaume du roi Nabucodonosor et l'empire babylonien, qui a régné de 625 à 539 avant Jésus-Christ. À l'époque, on sait que la Babylonie, ça occupait l'Irak d'aujourd'hui, près de Bagdad, et les Babyloniens vénéraient plusieurs divinités, dont le principal était Marduk, représenté par une statue en or massif. Daniel 8 nous apprend que le deuxième empire, on verra dans les prochaines semaines, c'est l'empire médo-perse, représenté par la poitrine et les bras d'argent. Cyrus, un général perse, va s'emparer de l'empire babylonien en 539 avant Jésus-Christ, 150 ans avant cet événement, c'est ça qui est extraordinaire, le prophète Isaïe avait annoncé le renversement de Babylone par un homme qui s'appelait du nom de Cyrus. Daniel 8 nous révèle également le troisième royaume, c'est l'empire grec représenté par le ventre et les cuisses en bronze. Venu de Macédoine, Alexandre le Grand, après avoir conquis les cités grecques, va vaincre les armées du dernier roi Cyrus. En 10 ans, il imposera sa domination de l'Inde à l'Égypte. Mais dès la mort d'Alexandre en 323, comme la prophétie l'indique, ses généraux vont se partager les provinces et créeront plusieurs petits royaumes. Le quatrième royaume, le plus puissant de tous, n'est jamais identifié par Daniel. Il est simplement décrit comme possédant la force du fer et la capacité d'écraser ses ennemis. Historiquement, les jambes de fer font référence à la force de l'Empire romain et à sa capacité d'écraser ses ennemis. Dans Daniel chapitre 7, Daniel recevra une image et ces quatre royaumes seront représentés par quatre animaux qui représentent les quatre symboles des royaumes de ces empires qui ont régné. De mémoire, Babylone, c'est le lion. Médo-Perse, c'est l'ours. Où je travaille, là? Grec, c'est léopard, et les Romains, c'est l'aigle. Alors, à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, les Romains et leur empire écraseront la Grèce lors de la bataille de Pydna en 168 avant Jésus-Christ. Et c'est par la supériorité de leur armement, c'est-à-dire un glaive en fer et non en bronze que les autres possédaient, qui était plus cassant que l'armée des légionnaires romains, va s'étendre sur toute l'Europe et tout autour de la Méditerranée. Les versets 41 à 43, Daniel continue. Voici ce qu'il dit. « Enfin, ainsi que tu l'as constaté, les pieds et les orteils de la statue étaient faits en partie de fer et en partie d'argile. Cela que ça signifie que ce royaume manquera d'unité. Il y aura en lui quelque chose de la solidité du fer, puisque tu as vu le fer mêlé à la terre cuite ou à l'argile. Mais les orteils ou le fer et la terre cuite mélangés ensemble montrent qu'une partie de ce royaume sera forte et une autre partie fragile. Les versets 41-43 expliquent les pieds et les orteils qui sont faits en partie de fer et en partie d'argile. Je crois que cela fait référence à l'éclatement de l'Empire romain dans les pays qui composent maintenant l'Europe et le bassin méditerranéen, certains forts et d'autres faibles. Il indique aussi que des rois s'allieront par des mariages, mais ces alliances ne seront pas solides, pas plus que le fer et l'argile. Effectivement, en 476, l'Empire d'Orient sera détruit, et en 1453, l'Empire d'Occident subira le même sort. Il est très significatif de voir qu'aucun empire mondial ne soit jamais né après la dissolution de l'Empire romain. C'est à partir de l'ancien Empire romain que naît ce que nous appelons la civilisation occidentale. Dans un sens, même si l'Empire romain n'existe plus, son influence se fait toujours sentir à travers toutes les nations qui sont sorties du territoire qu'il dirigeait jadis, y compris même dans une religion qui était très dominante pendant des siècles, la religion catholique, qui ne le dit plus aujourd'hui, mais qui s'appelle la religion catholique romaine. Elle porte toujours cette signification. Dans un sens, la civilisation occidentale elle-même, on peut un peu inclure dans le sens large du terme, on peut inclure les États-Unis, retrace en grande partie l'histoire de cette Rome, de ce monde occidental, jusqu'à la Grèce et la Rome antique. Encore une fois, remarquez que lorsque la pierre frappe la statue, elle ne frappe pas la tête, ni la poitrine, ni les cuisses, ni les jambes, mais frappe les pieds et les orteils de fer mélangés avec de l'argile. Je crois que cela signifie que la pierre au verset 34, qui fait référence au retour de Jésus-Christ sur la terre pour établir son royaume, écrasera les gouvernements humanistes qui se sont alliés ensemble dans les derniers jours sur la conduite de la personne que la Bible appelle l'Antichrist. Vous vous demandez comment je peux parler de l'Antichrist alors qu'il ne se trouve pas dans Daniel 2. C'est une bonne question, mais la réponse, c'est que je l'ai tirée de Daniel 7, que nous aborderons plus tard dans cette série, qui décrit même une représentation de ces quatre grands royaumes mondiaux, où je l'ai dit tantôt, j'ai pris de l'avance, sous la forme de quatre animaux. Les versets 44 à 45. À l'époque de ces rois-là, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera jamais à une autre nation. Et frères et sœurs, on appartient à ce royaume. On appartient à ce royaume, et j'espère que vous, en lisant les Écritures, vous vous rendez compte de l'héritage qu'on a reçu dans la personne de Jésus-Christ. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises depuis 18 ans ici. Tout ce que Dieu a donné à Jésus-Christ, ça nous appartient. Tout ce que Dieu a donné à Jésus-Christ, nous allons le recevoir, puisque la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ de tout ce qu'il a reçu de Dieu. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut penser un instant combien des fois ça ne nous prend pas grand-chose pour se faire séduire et quitter les choses célestes, quitter les choses qui nous attendent pour l'éternité et commencer à s'occuper de nos briques, commencer à s'occuper des choses à la terre qui un jour vont fondre quand Dieu mettra le feu à cette ancienne terre pour en créer une nouvelle. Frères et sœurs, les messages de la fin des temps, ça nous rappelle qu'on doit lever les yeux vers le ciel et non pas regarder à l'horizontale, mais vers le ciel, parce que c'est de là que le Seigneur Jésus va revenir. Et je peux prononcer la parole qu'il a mentionnée à plusieurs reprises en Apocalypse ce matin, « Jésus revient bientôt. » Amen. Jésus revient bientôt. Daniel continue en disant, « Le grand Dieu t'a fait connaître ainsi ce qui arrivera par la suite au roi. Ton rêve est une authentique révélation. » Et son interprétation est digne de confiance. La chose à noter à ce stade-ci, c'est que lorsque Jésus reviendra, tous les empires terrestres, seront totalement détruits. Rappelez-vous que dans le rêve, non seulement la pierre a brisé la statue, mais tous ces royaumes furent réduits en poussière que le vent emporta comme brin de paille, nous dit Daniel au verset 35, lorsqu'on vanne les céréales en été. Aucune trace n'en subsista, dit le texte. La venue de Christ mettra fin à tout ce qui a été construit par la main de l'homme et Jésus établira son royaume sur la terre. Remarquez ce que Daniel dit à propos de ce dernier royaume. Premièrement, il dit que c'est un royaume qui n'est pas fabriqué par la main des hommes. C'est là le dernier reproche fait à la philosophie humaniste. C'est aussi la fin de l'optimiste évolutionniste, du rêve impossible que le monde puisse être sauvé par la pensée positive. Lorsque Christ établira son royaume, il n'aura besoin d'aucune aide de votre part ni de la mienne. Deuxièmement, remarquez une deuxième chose que Daniel dit à propos de ce dernier royaume. Ce royaume va détruire tous les royaumes terrestres. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est un jour de grâce où Dieu permet que les hommes s'opposent à son plan afin que les pécheurs puissent disposer de plus de temps pour réfléchir sur leur mauvaise manière de vivre et se tourner vers le Seigneur. Mais un jour de jugement approche, et ce jour-là, le Seigneur Jésus écrasera tous ses ennemis sous ses pieds. Une troisième chose que Daniel dit à propos de ce royaume, c'est que c'est un royaume qui ne sera jamais détruit. Il est universel, il est éternel. L'apôtre Pierre, s'adressant aux chrétiens de son époque, leur dit, pour ceux qui ont leur Bible, 2 Pierre 1, on va lire les versets 10 à 15 ensemble. C'est pourquoi, frères, il s'adresse à l'Église, il s'adresse aux chrétiens. Efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel de Dieu. Dans un français normal, on dirait, faites tous vos efforts pour prendre au sérieux l'appel que Dieu a placé, que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. Et souvent, les chrétiens qui mènent une vie désordonnée, les chrétiens qui abandonnent le Seigneur Jésus, c'est des chrétiens qui ont cessé un moment ou l'autre dans leur vie de prendre au sérieux la vie chrétienne, de prendre au sérieux le sacrifice de Jésus-Christ, qui ont cessé de prendre au sérieux les promesses qui sont contenues dans la parole. Et ici, l'apôtre Pierre dit, « Efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. » Frères et sœurs, c'est un grand privilège que dimanche après dimanche, en Belgique, vous pouvez entrer dans une église, entendre la parole de Dieu avec la version que vous avez, alors qu'il y a encore des gens à travers le monde entier qui n'ont jamais, jamais encore entendu la parole. La question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'on prend au sérieux ce que Dieu nous a donné? Est-ce que suffisamment pour la transmettre à ceux qui n'ont jamais entendu, même dans le monde occidental? Parce que dans le monde occidental, ils ont été christianisés, mais ils n'ont pas encore été évangélisés. C'est toute une différence. Toute une différence. Et l'apôtre Pierre dit ici, « Efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé, de servir et faire en sorte que le royaume progresse. C'est à travers vous, vous êtes ses ambassadeurs. » Il continue en disant, « Car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. » Frères et sœurs, si nos pensées sont gardées captives en Jésus-Christ, si on est en travail pour le royaume de Dieu, on n'a pas le temps de penser au péché. On n'a pas le temps de penser à autre chose que de servir le Seigneur. Et regardez ce qu'il dit. C'est ainsi qu'il vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous rappellerai toujours ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous restiez fermement attachés à la vérité que vous avez reçue. Il n'est pas avec des chrétiens là, qui sont en train de quitter le bateau. Il dit, c'est mon devoir de vous rappeler toujours ces choses, parce qu'on est des auditeurs oublieux. On oublie facilement. C'est pour ça que la Sainte-Seine est là lors des cultes. Pourquoi? Parce qu'on oublie facilement ce que le Seigneur, la valeur, l'importance de ce que le Seigneur a accompli sur la croix. Et on a placé, en fait, la Sainte-Seine pour nous rappeler la naissance de Jésus, la mort de Jésus, et en sa résurrection et son retour. Et tout ça, c'est une prédication. Ernest, on n'aurait pas eu besoin de prêcher ce matin, c'était complet. Mais voilà, il fallait quand même... on va essayer de faire ça en 5 minutes. Voilà. Mais c'est important qu'on puisse continuellement s'alimenter de la parole pour se rappeler constamment le privilège qu'on a de pouvoir servir un Dieu qui n'a même pas besoin de nous, qui nous fait une grâce de pouvoir être ses ambassadeurs et de partager ce merveilleux cadeau qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Daniel dit au verset 44, « À l'époque de ces rois-là, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera jamais à une autre nation. Ce royaume écrasera tous les royaumes précédents et mettra fin à leur existence, puis il subsistera éternellement. Son royaume, frères et sœurs, est le dernier royaume. Il ne sera jamais remplacé par un autre, ni par quelqu'un d'autre, et personne ne le renversera jamais. Terminons maintenant notre étude de Daniel 2 en faisant ressortir quelques vérités qui sont importantes de retenir pour nous, chrétiens du 21e siècle. Premièrement, ce ne sont pas tous ceux qui dirigent ce monde qui déterminent l'histoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais la main puissante de Dieu. C'est la main puissante de Dieu qui dirige ce monde. Les grands dirigeants de ce monde s'imaginent qu'ils font la loi, mais comme nous le verrons dans Daniel 4, plus ils deviennent importants et plus ils finissent par tomber de haut. Dans le psaume 75, versets 7 et 8, il est écrit que la grandeur ne vient ni d'Orient ni d'Occident, ni encore du désert, car celui qui juge, c'est Dieu, abaissant un, élevant l'autre. C'est Dieu qui met en place les pouvoirs en place. Oui, là, j'aurais pu me forcer pour... C'est Dieu qui nomme les pouvoirs en place, voilà. Cela signifie, il est difficile pour nous de comprendre pleinement cela, que Dieu agit à travers le libre arbitre de ses créatures en mettant au premier plan qui il veut. La grande statue de Daniel nous enseigne que Dieu contrôle le déroulement de l'histoire. Les empires apparaissent et disparaissent conformément à son plan divin. N'oublions jamais que Dieu agit en eux, à travers eux et avec eux, et ce, parfois malgré ce que nous avons décidé et pour qui nous avons voté, afin que sa volonté soit faite. Sachant cela, cela nous permettra de maintenir un équilibre spirituel tout au long de l'année 2019. Deuxièmement, une autre vérité qui se ressort dans Daniel 2, c'est que même l'empire le plus méchant sert le plan éternel de Dieu. Rien n'arrive par accident. Tu t'amènes à ça? Rien n'arrive par accident ou par hasard. Le roi de Babylone était en lui-même un homme brillant, instable et cruel, qui avait peu d'estime pour les êtres humains. Il avait juste à claquer des doigts et une vie qui venait de disparaître. Pourtant, Dieu va utiliser ce dirigeant païen pour révéler son plan concernant l'histoire de l'humanité. Lorsque nous sommes maltraités par des personnes méchantes, il nous est difficile, voire même impossible, de voir la main de Dieu à l'œuvre. Daniel nous rappelle que Dieu se tient dans l'ombre pour élaborer son plan, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Quand il vous arrive une difficile épreuve, quand vous êtes, on décause sur vous pour rien, que ça vous fait mal, que vous ne comprenez pas parce que ça peut venir de frères ou de sœurs ou de gens qui se disent frères ou sœurs, rappelez-vous que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que le but de Dieu, à travers ces personnes-là, ce n'est pas de vous détruire, mais c'est de vous faire grandir parce que Dieu a un enseignement important à vous transmettre à travers ce que vous allez vivre. Tu t'amènes à ça? C'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment important. Vraiment important qu'on saisisse ça. Si on marche en nouveauté de vie, si on vit en obéissance avec la parole, Romains chapitre 8, 28 et 29, les épreuves, eh bien, Dieu nous envoie des épreuves, permet des épreuves dans notre vie pour nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est le but que Dieu s'est fixé pour vous et pour moi. Et il va le faire à travers différentes choses. Il vous connaît et il me connaît mieux que nous-mêmes et il va continuer à travailler pour qu'il puisse manifester sa gloire à travers ses enfants. Troisièmement, une troisième vérité que nous retrouvons dans Daniel 2, les empires les plus puissants ne sont que temporaires, aucun ne dure éternellement. Cette semaine, j'ai médité sur ce que Dieu pouvait dire à travers de nombreux chrétiens qui sont morts récemment, de façon tragique, suite à des attentats terroristes qui sont perpétrés contre des églises. Vous avez un peu lu dans les journaux, vous avez vu à la télévision. Je pense aux enfants qui sont morts dans ces attentats. Dernièrement, cette semaine, il y a 20 enfants qui sont morts dans un attentat, plusieurs adultes, ce sont des innocents. Et on peut se demander pourquoi Dieu a permis ça. Mais il y a une chose qui en est ressortie, quand on commence à gratter un peu comment les médias ont traité ça, eh bien, même si il y a des méchants qui ont enlevé des vies, Dieu a trouvé le moyen à travers les médias que certains médias puissent proclamer l'Évangile, des médias qui sont humanistes, qui sont séculiers, qui sont profanes, à travers ces drames, ont pu expliquer pourquoi il y avait eu ces attentats, parce que ces chrétiens croyaient dans l'Évangile de Jésus-Christ et c'est un moyen que Dieu a utilisé. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas Dieu qui a mis dans le cœur des terroristes d'aller faire sauter une bombe. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais simplement que Dieu sait mieux que nous comment contrôler, comment diriger les choses et que si Dieu permet des choses, en tant qu'être humain, il y a des choses qui sont incompréhensibles, voire même inacceptables. Mais rappelons-nous que Dieu ne perd jamais le contrôle puisqu'il est souverain. Et que ces méchants, eh bien, un jour rendront compte à Dieu pour ce qu'ils auront fait. Quand la mort frappe, le monde n'a pas de réponse. Quand la mort vient et enlève un homme dans la force de l'âge, les gens sans Christ ne savent pas quoi dire ou quoi faire. Quelqu'un qui meurt subitement révèle le vide de la vie humaine et le vide douloureux à l'intérieur de chaque cœur humain. Nous pouvons presque tout maîtriser à notre époque, mais nous ne pouvons pas contenir ni maîtriser la mort. Nous pouvons répondre à toutes les questions, mais pas à celle qui est la plus importante. Que se passe-t-il lorsque nous mourons? Et on en a parlé hier lors du culte de reconnaissance. Que se passe-t-il lorsque nous mourons? Jésus est la réponse. Il est notre espoir. Il est la raison pour laquelle nous pouvons faire face à l'avenir avec confiance. Est-ce que vous avez confiance en l'avenir, frères et sœurs, ce matin? Oh, mes amis! Hey, il y avait plus de vie que ça au salon funéraire hier, hein? Rudy? Oui? Parfait. Non, j'ai réveillé Rudy, malheureusement. Bon, voilà. Non. Jésus est la réponse. Il est notre seul espoir. Il est la raison pour laquelle nous pouvons faire face à l'avenir avec confiance. Pourquoi? Parce que ce que Dieu promet, il l'accomplit. Il est ressuscité. Il est là-haut. Il a un ministère important. Il prie pour nous. Il intercède pour nous, frères et sœurs. Frères et sœurs, la vie est un jeu perdant. Je réfléchissais à cela hier en me rendant au cimetière pour l'enterrement de notre sœur Madeleine. Est-ce que vous savez comment ce monde vous récompense, frères et sœurs? Lorsque vous mourrez, vous obtenez un trou dans le sol et un morceau de granit au-dessus de votre tête. Sur le granit, on cisèle votre nom, votre date de naissance, votre date de décès, et devinez comment on résume votre vie. Votre nom, né telle date, mort et mort telle date. Ça se résume, c'est tout. Ça se résume à ça. Ça, c'est la récompense. C'est la récompense que le monde nous donne. Un trou dans la terre, une pierre tombale. C'est tout. C'est tout ce que vous recevez dans ce monde quand vous le quittez. Que vous reste-t-il si vous êtes célèbre? Un trou dans le sol et une pierre tombale. Et si vous vivez jusqu'à 90 ans, un trou dans le sol et une pierre tombale. Et si vous mourrez jeune, un trou dans le sol et une pierre tombale. Et si vous êtes une bonne personne, bien, vous héritez d'un trou dans le sol et une pierre tombale. Qu'en est-il des criminels? Eh bien, ils héritent la même chose que vous et moi, un trou dans le sol et une pierre tombale. Des gens riches, pauvres, vieux, jeunes, gentils, des imbéciles, des citoyens solides, des stars du rock, des missionnaires fidèles, des meurtriers, nous sommes tous traités de la même façon vis-à-vis de ce monde, un trou dans le sol et une pierre tombale. C'est comme ça que le monde vous récompense. C'est comme ça que le monde me récompense. Et rendu au cimetière, je me disais, si je devais chercher un endroit dans ce monde où nous n'avons pas à dire au revoir, je ne le trouverais pas. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit quelque chose de magnifique. Il dit dans chapitre 11, verset 10, qu'Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ce qui importait à Abraham, ce n'était pas que son nom se finisse sur une pierre tombale, avec l'année qui est venue au monde et l'année qui est mort. Ce qui importait pour Abraham, c'est que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Est-ce que votre nom est tous inscrit dans le livre de vie ce matin? En avez-vous l'assurance? Le même chapitre nous dit que ces gens de foi ont ouvertement reconnu qu'ils étaient des étrangers et des exilés sur la terre. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux continue au verset 15 à 16, « Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. S'ils avaient pensé avec regret au pays qu'ils avaient quitté, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En réalité, ils désiraient une patrie meilleure, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. En effet, il leur a préparé une cité. » Et frères et sœurs, ce que Dieu est en train de nous préparer, ça dépasse notre imagination. Frères et sœurs, des jours meilleurs sont à venir, mais ne sont pas encore là. En attendant que ce jour vienne, continuons à regarder vers le ciel et ne construisons pas notre vie autour des choses de ce monde. Si vous allez un jour à l'Institut biblique Moody, il y a une plaque sur un mur près de la librairie qui dit à peu près ceci. Près de cet endroit, Dwight L. Moody s'est agenouillé et a demandé à Dieu un terrain pour construire une école de formation biblique pour les adolescents. Et Dieu l'a exaucé. C'est un institut biblique qui continue à tourner et qui forme de grands serviteurs de Dieu. Mais à la fin de sa vie, Dwight L. Moody écrivait ceci. Le monde est en train de passer, ainsi que tout ce que l'on y trouve à désirer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu vit éternellement. Quatrièmement, une vérité que nous apprenons dans cette, et c'est la dernière, dans Daniel chapitre 2, Jésus-Christ est le centre de l'histoire. Il y a maintenant plus de 2000 ans que Jésus est venu au monde, à Bethléem. Son arrivée a divisé toute l'humanité. 2000 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans après Jésus-Christ. Et les humanistes, les athées, eh bien, plutôt que de dire 2000 ans avant ou 2000 ans après, ils vont dire 2000 ans de notre ère. On parle de notre ère, hein? Vous avez déjà entendu, hein? On parle de notre ère. C'est les horripiles de prononcer le nom de Jésus. Sa première venue a quand même changé le monde. Sa seconde venue amènera l'histoire de l'humanité telle que nous la connaissons à sa fin, telle que décidée par Dieu. Ce qui m'amène à dire que si quelqu'un connaît tous les faits de l'histoire sans connaître Jésus, il a raté le but même de l'histoire. Lorsque nous arrivons à la fin de Daniel 2, la question que nous devons nous poser est la suivante. Quelle est notre relation avec celui qui est le rocher du salut, le Seigneur Jésus-Christ? Dans la Bible, il est appelé la pierre que les constructeurs ont rejetée. Dieu a ordonné qu'il devienne la pierre angulaire de l'univers. Où vous situez-vous par rapport à lui ce matin, frères et sœurs? Vous ne pouvez être qu'à deux endroits. Vous êtes soit sur le rocher ou soit sous le rocher. Il est soit une pierre d'achoppement pour vous ou soit une pierre angulaire sur laquelle repose votre salut ce matin. Ésaïe dit, faites confiance pour toujours au Seigneur, oui au Seigneur, le rocher de tous les temps. Construisez votre vie sur lui, ne vous serez jamais déçus. Si vous n'êtes pas sauvé ce matin, courez vers celui qui est le rocher. Quand Jésus viendra, serez-vous content de le voir? Ou allez-vous découvrir qu'il va détruire tout ce que vous avez travaillé si dur à construire dans votre vie? Quel défi pour nous tous, n'est-ce pas? Si nous avons passé nos journées à ne construire que pour ce monde, nous découvrirons que tout ce que nous avons fait n'a compté pour rien. Même si nous construisons pour l'éternité, lorsque le Christ viendra, mais si nous construisons pour l'éternité, lorsque le Christ viendra, nous pouvons alors le retrouver avec joie. La vie passe tellement vite, bientôt nous quitterons ce monde, seulement ce qui est fait pour Christ durera. Ce monde est en train de s'effondrer et il est appelé à disparaître bientôt. Que Dieu nous aide à construire pour l'éternité. Amen.